Bonjour, je suis Olivier, bienvenue dans le podcast de Nine Archery. Aujourd'hui, je vais résumer et critiquer le livre. Dans Histoire des Habsbourg, des origines à nos jours, Henri Bogdan propose une synthèse historique consacrée à la maison qui domina durablement le Saint-Empire, l'Autriche et, par une branche distincte, l'Espagne, publié chez Perrin dans la collection Tempus. Cet essai suit la dynastie depuis l'élection de Rodolphe de Habsbourg au trône impérial en 1273 jusqu'à la dislocation des cadres impériaux habsbourgeois à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le livre ne réduit pas cette histoire à une galerie de souverains, il l'aborde comme un problème européen où se croisent successions dynastiques. Territoire composite, rivalité avec la France, rapport avec les principautés allemandes et confrontation avec l'Empire ottoman. Son objectif est de démêler la formation et l'évolution d'un ensemble politique particulièrement complexe, construit moins par une conquête continue que par les héritages, les alliances et les mariages. L'ouvrage constitue ainsi une porte d'entrée suivie dans l'histoire politique de l'Europe centrale et dans les mécanismes de puissance propres aux monarchies dynastiques. Je vais vous présenter les points clés de ce livre. Premièrement, de Rodolphe de Habsbourg à l'Autriche, la construction d'un centre de pouvoir dynastique. Le point de départ retenu par Henri Bogdan est décisif. L'élection de Rodolphe de Habsbourg comme roi des Romains en 273 fait passer une famille seigneuriale dans la sphère des grandes puissances du Saint-Empire. Cette élection ne crée pas d'emblée un État habsbourgeois unifié. Elle offre plutôt les ressources politiques nécessaires pour ancrer la dynastie dans les territoires autrichiens. L'Autriche devient progressivement le noyau de sa puissance, tout en restant insérée dans les structures mouvantes du monde germanique. Cette distinction aide à éviter une lecture anachronique. Les Habsbourg ne gouvernent pas, à l'origine, une nation homogène, mais accumulent des droits, des couronnes et des possessions dont les règles de succession diffèrent. L'intérêt d'une histoire au long cours est de montrer que la permanence dynastique dépend autant de cette capacité d'adaptation institutionnelle que de la seule ambition de ses princes. La dignité impériale procure un prestige considérable, mais elle est élective et suppose des compromis avec les princes du Saint-Empire. Les possessions héréditaires, elles, fournissent une base matérielle plus stable. Bogdan situe donc l'ascension des Habsbourg dans l'articulation entre ces deux dimensions, une légitimité impériale disputée et une consolidation territoriale patiente. Ce cadre éclaire les développements ultérieurs, lorsque la famille étend son influence bien au-delà de l'espace autrichien, sans perdre ce centre de gravité danubien. Deuxièmement, les mariages et les successions, un instrument concret d'expansion européenne, l'un des fils directeurs du livre est la politique matrimoniale. Souvent résumée par la formule attribuée aux Habsbourg, laisser les autres faire la guerre et se marier eux-mêmes. Bogdan ne présente pas ce procédé comme une astuce isolée, mais comme un mécanisme de gouvernement adapté à l'Europe des lignages. Un mariage princier peut ouvrir des droits successoraux. Ceux-ci deviennent effectifs seulement à travers des négociations, des décès, des accords entre familles et parfois des conflits armés. L'héritage bourguignon lié à Charles le Téméraire, puis l'héritage espagnol des rois catholiques, illustre la portée de ces combinaisons. Il transforme l'horizon de la dynastie et contribue à faire de Charles Quint l'un des souverains les plus puissants de son temps. L'analyse rappelle toutefois que l'accumulation des couronnes produit une puissance dispersée plutôt qu'un bloc parfaitement administré. Les Pays-Bas, les royaumes ibériques, les possessions italiennes, les territoires autrichiens et les droits impériaux ne forment ni une administration unique ni une société uniforme. La logique successorale impose donc de composer avec des élites locales, des lois particulières et des intérêts parfois contradictoires. La séparation ultérieure entre les branches espagnoles et autrichiennes montre également que l'agrégation dynastique peut atteindre ses limites. Ce thème rend intelligible la géographie inhabituelle de la puissance habsbourgeoise. Elle provient de liens familiaux juridiquement et politiquement exploités, non d'une expansion territoriale linéaire. Troisièmement, deux branches habsbourgeoises et la difficulté de gouverner des monarchies composites. L'ouvrage couvre les trajectoires liées, mais distinctes, des Habsbourg d'Espagne et d'Autriche. Cette double perspective est essentielle pour comprendre le XVIe siècle sous Charles Quint. L'ampleur des héritages rassemble temporairement des espaces européens très éloignés, tandis que la transmission ultérieure répartit ces ensembles entre deux lignes de la famille. Loin d'être un simple détail généalogique, cette division modifie la politique continentale. La branche espagnole est fortement engagée dans les affaires de la péninsule ibérique, des Pays-Bas et de l'Italie. La branche autrichienne concentre davantage son action sur le Saint-Empire, le bassin danubien et la frontière ottomane. Toutes deux restent liées par des intérêts familiaux et confessionnels, mais elles ne disposent pas des mêmes ressources ni des mêmes priorités. Bogdan permet ainsi de saisir la réalité des monarchies composites. le souverain y règne sur des pays qui conservent institutions, privilèges, langues et traditions politiques propres. L'enjeu n'est pas seulement de centraliser, mais de maintenir la coopération de corps politiques divers. La Bohême et la Hongrie, intégrées à la sphère habsbourgeoise, donnent une importance croissante à l'Europe centrale et orientale dans l'histoire de la dynastie. Cette pluralité explique à la fois la résilience de l'ensemble et ses fragilités. La négociation avec les ordres et les élites locales peut préserver les équilibres. Mais elle limite aussi l'uniformisation administrative. Le livre invite donc à lire les Habsbourg comme les gestionnaires d'une pluralité de couronnes plutôt que comme les maîtres d'un État national avant la lettre. Quatrièmement, la dynastie au cœur des rivalités européennes France, Empire, Ottoman et Russie. Henri Bogdan inscrit les Habsbourg dans le système diplomatique européen plutôt que de les isoler dans une histoire autrichienne. Leur puissance les place durablement dans une relation de concurrence avec la France, notamment lorsque les possessions habsbourgeoises paraissent encercler le royaume français au XVIe siècle. Les conflits entre les Valois et Charles Quint, puis les affrontements et alliances changeantes des siècles suivants, révèlent que les solidarités dynastiques ne suffisent jamais à fixer une politique extérieure. Les Habsbourg peuvent être alliés ou adversaires de la France selon les conjonctures, les intérêts territoriaux et les équilibres de puissance. Le front oriental fournit un autre axe majeur. La possession de la Hongrie et la proximité de Vienne font de la lutte contre l'Empire ottoman une question structurelle pour la branche autrichienne. Il ne s'agit pas uniquement d'un choc religieux ou civilisationnel, la défense des frontières, les ressources militaires et les alliances régionales y jouent un rôle concret. À l'époque moderne puis contemporaine, les rapports avec la Russie deviennent également déterminants dans les affaires de l'Europe centrale et balkanique. En soulignant ces coalitions variables, le livre montre que la dynastie participe à tous les grands réagencements diplomatiques du continent. La puissance habsbourgeoise est donc relationnelle, elle dépend de ses possessions, mais aussi de sa faculté à trouver des partenaires, à contenir des rivaux et à éviter qu'une coalition adverse ne transforme son extension territoriale en vulnérabilité stratégique. En dernier lieu, de l'Empire danubien au démembrement de 1919-1920, les limites d'une solution dynastique, la dernière grande question posée par cette histoire est celle de la durée, puis de l'effondrement. Après avoir survécu aux divisions religieuses, aux guerres européennes et aux transformations des rapports de force, la monarchie habsbourgeoise demeure un acteur central dans l'espace danubien. Sa longévité tient notamment à sa capacité à associer, de façon inégale mais durable, des territoires et des peuples divers sous une même couronne. Cette formule impériale ne repose pas sur l'identité nationale unique. Elle s'appuie sur la légitimité dynastique, des administrations différenciées et des compromis avec les groupes dirigeants. Elle fournit ainsi un cadre politique à une région caractérisée par une grande diversité linguistique, confessionnelle et historique. Mais les principes qui avaient favorisé sa survie deviennent plus difficiles à concilier avec la montée des nationalismes et la crise générale provoquée par la Première Guerre mondiale. Le démembrement de 1919-1920, auquel Bogdan donne une place conclusive, ne doit pas être interprété comme l'issue mécanique de 7 siècles d'histoire. Il résulte de la défaite militaire, de l'épuisement politique et de la contestation des structures impériales par des projets nationaux concurrents. La disparition de l'Empire austro-hongrois marque donc moins la fin d'une simple famille que l'effondrement d'un mode de construction politique fondé sur la dynastie et la pluralité des couronnes. Cette perspective aide à comprendre pourquoi la question habsbourgeoise dépasse largement les seules figures célèbres de la cour de Vienne. En conclusion, l'histoire des Habsbourg s'adresse en priorité aux lecteurs qui cherchent une vue d'ensemble solide sur le Saint-Empire, l'Autriche, l'Espagne des XVIe et XVIIe siècles et l'Europe centrale jusqu'en 1918. Il convient aussi à ceux qui connaissent surtout Marie-Antoinette, Charles Quint ou la Vienne impériale et souhaitent replacer ces figures dans une continuité dynastique beaucoup plus vaste. Son bénéfice intellectuel principal est de fournir une carte de lecture, les successions, les branches familiales. Les couronnes et les alliances deviennent les éléments d'une même histoire, au lieu d'apparaître comme une succession d'épisodes nationaux séparés. L'ouvrage se distingue des biographies de souverains et des récits centrés exclusivement sur l'Empire austro-hongrois finissant. Son ambition est plus transversale suivre. Sur près de 7 siècles, les déplacements du centre de gravité habsbourgeois entre l'Autriche, le Saint-Empire, l'Espagne, les Pays-Bas et l'espace danubien. Cette échelle permet de comprendre que le pouvoir de la famille fut à la fois exceptionnellement étendu et constamment fragmenté. La politique matrimoniale, souvent réduite à une anecdote, y prend le sens d'une technique de puissance. La diversité des territoires, souvent décrite comme un handicap, apparaît aussi comme une condition de la durée impériale. Pour un lecteur non spécialiste, la clarté d'une synthèse chronologique est particulièrement utile. même si l'abondance des lignées et des possessions peut inciter à consulter en parallèle des cartes ou des arbres généalogiques détaillés. C'est donc une introduction substantielle à une dynastie indispensable pour comprendre la formation politique de l'Europe moderne et centrale. Si vous souhaitez soutenir Henri Bogdan, vous pouvez acheter le livre via le lien Amazon que j'ai fourni dans la description du podcast. Après avoir lu le livre, faites-moi savoir ce que vous en pensez et partagez vos réflexions. À bientôt.